êtes à l'antenne de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous ce matin, alors qu'on démarre ce cinquième jour de route vers les élections municipales à Québec et dans la région de Québec. Et ce matin, le thème, ce sera celui de la société. Alors, plusieurs enjeux seront explorés au fil de la prochaine heure et demie. Notamment, on va parler de démocratie municipale, de participation citoyenne en compagnie de Renaud Blais, du porte-parole de la Ville de Québec que nous voulons. On va jeter plusieurs regards à la pauvreté. D'abord, un plan général de lutte à la pauvreté pour Québec. On en discute avec Robin Couture du collectif Pour un Québec sans pauvreté. Et on parle également d'itinérance, de mixité sociale en compagnie de Joël Castonguay, qui est le coordonnateur du regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec. Et pour ce qui est de la première demi-heure, notamment, on va jeter un coup d'œil à la question des nouveaux-nés, des familles via l'initiative 1, 2, 3, Go Limoilou. Et également, on jette un coup d'œil à la question des aînés dans la Ville de Québec via l'exemple d'une autre initiative qui s'appelle Aînez-nous à vous aider. Et d'ailleurs, pour en parler avec nous, je suis en compagnie de son responsable, Louis Lemieux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, mais il faut dire, en fait, peut-être pour établir le contexte, la population à Québec, j'ai l'impression, un peu comme au Québec, n'est pas en train de rajeunir, elle est en train de vieillir.
Exactement, oui. Il y a une grande proportion. Il y a les aînés, on voit qui sont de plus en plus nombreux. Il y a beaucoup de mises à la retraite, mais même si on voit qu'il y a beaucoup d'aînés dans la société, on remarque qu'ils sont encore très actifs, là, soit qu'ils ont ils travaillent encore, sont encore sur le marché du travail, ou soit qu'ils ont des tâches bénévoles là, non rémunérées.
Et c'est dans ce contexte-là aussi que s'insère l'initiative « Aînez-nous à vous aider ».
Oui.
Qu'est-ce que c'est, cette initiative-là?
L'initiative, c'est un projet de travailleur de milieu. Alors moi, mon titre, ma profession, je suis travailleur de milieu, c'est comme un travailleur de rue pour les jeunes, sauf que ma clientèle, moi, c'est 50 ans et plus. Et puis, moi, je vais à la recherche des aînés dans les endroits publics, dans les associations, pour leur faire connaître les ressources disponibles, les services qu'ils ont à leur disponibilité. Parce que souvent, on remarque que quand on quitte le marché du travail, on peut tomber dans un certain isolement, soit isolement social, mais aussi affectif, étant donné que leur réseau, qui est aussi vieillissant qu'eux, se voit rapetisser aussi. Question famille aussi, on peut en reparler aussi, les mentalités familiales, l'exercice... Les enfants qui quittent le domicile familial, ils s'éloignent aussi. Comme je vous disais, que le réseau rapetisse, étant donné que les frères et sœurs, les cousins, les matantes, eux aussi prennent de l'âge, puis ils décèdent, puis cet isolement, leur isolement là, commence à plus s'établir. Mais on remarque aussi que comment je pourrais vous expliquer ça?
Cherche à s'impliquer, ouais. sont disponibles à s'engager?
Ou? Je voulais parler plus des familles, que le réseau, toujours en restant dans le réseau, que les familles étaient nombreuses autrefois, maintenant on a des plus petites familles, puis en plus, sont souvent, malheureusement, les familles sont éclatées. Et puis, pour une personne aînée, voir sa famille est allée dans une grande province ou dans un grand pays, puis même à cette heure, les enfants déménagent à l'extérieur. Alors, leur milieu, leur cellule est de plus en plus petite. Malgré qu'on a tendance à remarquer que c'est pas juste la famille que les aînés ont besoin, mais ils ont besoin d'amis aussi. Vous allez à des endroits, les associations comme que je fréquente, on voit... un grand nombre d'aînés qui s'échangent toujours des services ou ils vont là pour des activités, pour le jeu, pour s'amuser. Mais il y en a une grande partie aussi de personnes aînées qui s'impliquent dans la société en tant que bénévoles, sur tous les plans, sur le plan communautaire, sur le plan social, sur le plan culturel, même sportif. On voit des aînés comme les aînés sont tout plus actifs aussi que dans les générations précédentes, sont en meilleure santé, puis sont mieux éduqués, là, par une grande partie sont mieux éduqués.
Alors l'idée, c'est en fait de se donner des structures, de se donner des moyens, de se donner des outils pour briser cet isolement-là et pour utiliser le plein potentiel, dans le fond, de nos aînés.
Oui, exactement. Moi, je suis à la recherche des aînés, pour les faire connaître les ressources, pour créer le pont entre le besoin et la ressource qui peuvent leur venir en aide, l'idée de départ, on s'est remarqué, nous, on a établi notre projet à partir de la paroisse Saint-Pierre-aux-Liens, Notre-Dame-des-Laurentides, Stoneham-Tisbury, Lac-Beauport, Lac-de-Lage, car on avait vraiment un besoin dans ce secteur-là de voir que les aînés en milieu plus rural avaient des difficultés à venir au service en ville. Ils se sentaient pas inclus à la grande ville de Québec. Et puis, nous, c'était pour aller les chercher, pour leur démontrer ces services, parce que ces gens-là qui ont travaillé dans leur vie en ville, il y avait leur maison, ils ont décidé à leur retraite, je m'en vais au chalet, puis je le rénove, je fais un chalet 4 saisons. Ils ont fait le choix de s'isoler, mais éventuellement, comme les choses que je vous ai dites tout à l'heure, leur réseau s'effrite, et puis à ce moment-là, ils se retrouvent dans une solitude, dans un isolement volontaire au départ, mais au fur et à mesure, les contacts se perdent, alors à un moment donné, ils se retrouvent, puis ils ont des besoins, ils n'ont plus personne autour d'eux. C'est pas fréquent qu'on voit des personnes aînées me téléphoner en voulant dire « Louis, ma fille est à l'extérieur, j'ai plus de frères et sœurs, je sais plus qui appeler, je suis quasiment leur seule ressource. » Malgré que je suis pas le bon Dieu encore, mais j'essaie d'autant mieux de créer des ponts avec leur réseau, leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont pour eux autres comme service.
Et c'est un point intéressant que vous amenez, Louis Lemieux, dans la mesure où quand on regarde les milieux ruraux, les banlieues peut-être de deuxième, troisième couronne, plus éloignées au niveau des transports, par exemple, la réalité est complètement différente au niveau des services aussi face à la ville.
Ben c'est un problème. Je sais qu'il y a plusieurs municipalités dans le nord. Là, je prends par exemple Stoneham qui fait une navette. Peut-être que vous n'avez vu qui fait la navette du village de Stoneham, là, près du complexe municipal, qui s'en vient à l'université ou qui s'en vient au carré du Hauville, mais c'est pour les travailleurs, les aînés, c'est plus difficile. Des fois, il y a une mobilité. Chez nous, au Centre d'aide et d'action bénévole, on a des services d'accompagnement pour les personnes qui ont besoin de rendez-vous médicaux, mais il y a plein d'organismes aussi, même à Stoneham aussi, vous avez Entraide des Cantons Unis de Stoneham qui offre le service de transport aux aînés. Mais là, je parle de Stoneham, mais je peux parler aussi de plus près de nous, là, à Charlebourg. À Charlebourg, vous avez aussi d'autres organismes qui offrent ce service-là. Mais moi, je parle de Charlebourg parce que mon travail est à Charlebourg, mais vous avez à Beauport, vous avez Limoilou, la Haute-Ville, là, c'est services de navette pour des personnes aînées pour se rendre à leur rendez-vous médical ou d'aller voir le conjoint qui est hospitalisé, là. Alors...
Et au fil de vos expériences, justement, est-ce que, par exemple, on se dirait de bonifier des services de transport comme ça, de bonifier la disponibilité de ressources comme aidez-nous à vous aider, ça peut être des solutions justement pour aider ces personnes-là à briser leur isolement, à s'impliquer, etc.
Exact. Oui, il y a plein de façons d'approcher pour améliorer le transport, mais aussi, je vous dirais, la ressource humaine. La ressource humaine est très importante pour offrir ce service-là aussi. Là, quand on parle de bénévoles, c'est pas juste de la main-d'œuvre qu'on fait dans le bénévolat. Il y a un contact humain, il y a un échange de contact physique qui se fait. Puis les gens qui font du bénévolat, c'est ça aussi qu'ils veulent chercher. Quand on s'implique dans une organisation, jeune ou moins jeune, le bénévolat, on le fait pour soi, on le fait pas toujours pour les autres en avant-plan. On le fait pour soi parce qu'on a besoin de s'impliquer quelque part. Puis les aînés, c'est la même chose. On a plein de loisirs pour eux, mais ils ont le besoin aussi de s'impliquer, de se sentir utile, d'avoir la place. À Charlebourg, vous avez un projet pilote qui va commencer sous peu, puis sûrement que mon projet va s'associer avec eux, qui s'appelle Ville Amie des aînés. Et ça, c'est pour adapter les structures et les services de l'arrondissement Charlebourg. Présentement, il est juste en étude pour l'arrondissement Charlebourg, mais peut-être qu'on va voir éventuellement un jour que ça va toucher toute la grande ville. On va avoir une expérience, alors peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se développer. Et mon initiative de projet vient dans ce sens-là d'aider les aînés à s'adapter puis à se reconnecter avec la société puis de retrouver leur place dans leur milieu.
Et d'ailleurs, en parallèle, est-ce que ça devient justement une clientèle qui est parfois difficile à recruter pour différentes raisons?
Il y a certaines difficultés, mais je peux pas dire qu'elle est plus difficile que les jeunes de 15-18 ans, malgré que eux, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont du temps libre, comme je vous dirais, il y a un aspect de loisir qui est présent, mais vous avez aussi des personnes aînées qui s'impliquent. Souvent, on retrouve les personnes aînées qui s'impliquent, dans ceux qui font du bénévole, ils savent toujours, c'est toujours les mêmes qu'on voit un peu partout, malgré qu'on réussit toujours à aller en chercher. Mais comme mais vous savez que les personnes âgées, comme je l'ai mentionné précédemment, sont plus âgées, sont pas plus âgées, mais sont plus éduquées. Ils s'occupent de leur famille aussi, là, étant donné que les conditions familiales, des fois, il y a une tendance plus à s'occuper de la famille. Mais je voulais juste souligner que les aînés qui s'impliquent, ils viennent chercher quelque chose pour eux autres, tout d'abord, puis s'impliquer pour les autres.
Et dans ça aussi, est-ce qu'il y a une question, j'imagine, de développer des saines habitudes de vie en parallèle de développer de ce réseau de participation sociale-là?
Certainement, parce que moi, si je reviens toujours au bénévolat, le bénévolat permet de briser son isolement. Puis quand on brise notre isolement, on se rattrape aussi. Ça a des influences sur notre vie, sur notre santé physique, psychologique et sociale. Étant donné, si on s'en va dans un isolement, c'est sûr qu'on peut être, on peut développer certaines, certaines habitudes qui peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé, soit sur la santé physique, mentale aussi, là.
Pour se mettre un peu en tête aussi, une initiative comme NNU à vous aider, vous rejoignez combien de personnes dans la région donc de Charlebourg et les municipalités environnantes?
Moi, présentement, si je regarde là du côté bénévole, les gens que j'ai recrutés, là, j'ai une trentaine de bénévoles qui travaillent avec moi, qui sont que j'ai appelés vigiles. Alors, ils sont vigilants à leur quartier. C'est quand dans toute leur activité, soit dans leur activité bénévole ou soit quand ils vont prendre une marche, qu'ils se rendent à l'épicerie, ils rencontrent des personnes aînées qui voient qu'ils ont une difficulté, essaient de créer le lien de confiance pour les mettre en contact avec moi pour leur parler, puis moi je vais faire une évaluation par la suite pour les diriger au bon endroit. Mais je rencontre les aînés, je fréquente les endroits publics, là, comme les centres d'achat, quelques restaurants, les parcs. Je vais dans les clubs de l'âge d'or l'hiver où qu'on retrouve les aînés. Et moi, je suis là pour faire plus la promotion. C'est des aînés qui sont actifs. J'y vais pour faire la promotion. Mais je vous dirais que ça dépend toujours des saisons aussi. Je vous dirais que comme dans plusieurs organismes communautaires, les fins de mois sont plus difficiles. Alors, on a beaucoup plus d'appels en fin de mois, début de mois. Au centre, c'est moins. Mais j'ai très bons résultats. Si on regarde mes indicateurs de réussite, là, ça va quand même assez bien, là.
Et en terminant, Louis Lemieux, quand on regarde ça, en fait, je pense que c'est clair qu'il y a un besoin qui est là, auquel il y a réponse en partie. Peut-être en terminant, juste un ou deux éléments, justement, qu'il faudrait garder en tête, alors qu'on entend le tonnerre d'ailleurs, qu'il faudrait garder en tête en route vers les élections municipales, justement. Côté bonification, amélioration. Là.
Côté amélioration du côté municipal pour mon projet.
Et pour les aînés en général, là.
C'est sûr que qu'est-ce qui est intéressant, c'est d'inciter les gens à s'impliquer tout d'abord dans leur communauté, de sentir qu'ils ont toujours leur place, même si on fait du bénévolat une heure par semaine, cette heure-là est importante pour tout le monde. Moi, je demande pas à mes bénévoles de refaire 8-9 heures de bénévolat par semaine, mais juste une heure de dire qu'ils ont fait une action, ça fait une importance, une grande importance pour tout le monde. C'est toujours important d'en avoir de plus en plus.
Garder en tête justement l'importance du bénévolat, promouvoir le bénévolat, l'activité. Louis Lemieux, en terminant, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie de vous rejoindre, à quel numéro ils peuvent le faire?
Moi, ils me rejoignent directement sur mon cellulaire au 418-922-0963. Puis dans nos bureaux au Centre d'action bénévole de Charlebourg, c'est le 622-5910.
Louis Lemieux, donc responsable de ce programme « Aînez-nous à vous aider ». Merci.
Merci à vous.
Et on poursuit ces regards en route vers les élections municipales. On passe des aînés aux familles, aux nouveau-nés. On va jeter un coup d'œil à cette question-là via une autre initiative qui s'appelle 1-2-3 Go Limoilou. Son coordonnateur est avec nous ce matin, Marc Bergeron. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il faut dire, que comme tout à l'heure, on va établir peut-être un peu l'état des lieux. Ici, en fait, on parle de problèmes liés à l'isolement des familles.
Oui, ben l'initiative 1-2-3 Go est née de la volonté de s'entraide d'abord, là, de trouver une nouvelle façon de rejoindre justement les familles ayant de tout petits enfants. Il y a un certain nombre de territoires de la grande ville de Québec qui a été identifié et le Vieux-Limoilou a été identifié comme étant un secteur où il y a d'abord beaucoup de familles, de deux des familles qui cumulent un certain nombre de facteurs de risque. Donc, quand on parle de facteurs de risque, c'est notamment la pauvreté, notamment l'isolement social, le fait d'être monoparental, etc. Donc, à la suite de ça, ben il y a aussi chez l'initiative de Toireau la volonté d'agir contre l'isolement social, parce que c'est étonnamment, en 2009, c'est peut-être une drôle de réalité. Hein? Il y a des modes de communication qui nous permettent d'être en lien assez rapidement, mais on sait que il est de plus en plus difficile de créer des réseaux de solidarité ou des réseaux d'entraide naturelle qui font en sorte de diminuer justement les effets néfastes de ces facteurs de risque-là. Donc, il y a eu aussi, là, comme je vous expliquais auparavant, il y a eu une étude qui a été menée par Maria de Coninck, là, qui a comparé trois grands secteurs de la grande ville de Québec, Charlebourg, Limoilou et Portneuf, là, pour aller vérifier aussi le secteur plus rural. Et là aussi, il est ressorti de cette étude-là des constats assez étonnants, qui est, entre autres, le fait que les familles dans l'arrondissement et le Vieux-Limoilou sont étonnamment isolées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aussi facilement se référer à leurs propres parents, parce que, ou bien les familles sont ici, ils viennent de l'extérieur, se sont installés dans nos quartiers, et ils n'ont pas de famille immédiate autour d'eux, envers lesquelles ils peuvent se retourner quand ils rencontrent certaines difficultés ou certains besoins, hein, simplement des besoins. À partir du moment où tu deviens parent, là, t'as de nombreux besoins, là, pour subvenir aux besoins, justement, de tes enfants.
Et tout ça, on parlait de conséquences, justement, quand on est une famille isolée avec des nouveaux-nés, j'imagine que ça change notamment la relation qu'on entretient avec le quartier, avec le regard qu'on porte, justement, sur les questions de sécurité, par exemple, entre autres.
Ouais, ben c'est ça. Ben l'initiative de Toireau veut agir sur trois grands axes d'intervention. Un premier axe, évidemment, c'est d'améliorer les conditions de vie des tout-petits. Ça, c'est le premier axe important. Je pourrais vous donner des exemples là, tantôt. Le deuxième axe, c'est d'améliorer justement aussi les conditions de vie des familles. Puis le troisième axe, c'est d'améliorer l'aménagement physique là, du milieu. Parce que, on va vous donner un exemple, à partir du moment où t'as deux jeunes enfants, t'as deux jeunes enfants, puis t'as à circuler dans un quartier, t'en as un qui a 18-20 mois, alors tu vas l'avoir par la main pour circuler, traverser les rues, tu vas peut-être avoir ton poupon dans ta poussette, et c'est tout un tour de force déjà de traverser certaines intersections dans le Vieux-Limoilou. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous, on s'est dit, quand on parle de nous, c'est évidemment un groupe de partenaires et dans lequel aussi est impliqué plusieurs familles qui ont de jeunes enfants, parce que c'est un peu notre baromètre. C'est eux qui nous disent, ça serait intéressant s'il y avait une amélioration par rapport justement à la circulation dans les quartiers. Il me semble que ça serait intéressant, par exemple, si les parcs, on va vous donner cet exemple, les parcs urbains sont adaptés pour nos tout-petits, parce que il suffit d'aller dans les parcs pour s'apercevoir qu'on a dans le Vieux-Limoilou et dans l'arrondissement de très beaux parcs. On a aussi des aménagements moteurs qui satisfassent les besoins des 5-12 ans, je vous dirais, mais avec un petit de 18 mois, de 12 mois, voire même de 6 mois, quand t'arrives dans un parc, ça devient difficile. Le petit 18 mois veut monter dans le bloc moteur qui est adapté pour les 5 ans et plus. Alors, il court certains risques. Et là, t'es un parent, faut que tu supervises aussi ton petit qui est dans la poussette qui peut peut-être réclamer une gorgée de lait. Et donc, tu vas comme contraindre ton plus vieux de pas aller dans le bloc moteur. Bref, ça t'amène à finalement rester chez vous, parce que les parcs sont pas toujours adaptés et rarement adaptés pour les tout-petits. Il y a un exemple qui a été mené dans le parc Iberville. L'arrondissement a été un partenaire de premier niveau à ce niveau-là. Et le parc Iberville a vraiment été conçu pour les 0-5 ans. Et c'est fort intéressant d'aller le côtoyer ou en profiter, parce que effectivement, on peut laisser aller les tout-petits, puis ils peuvent en profiter. Et par voie de conséquence, s'ils bougent, s'ils grimpent, s'ils sortent dehors, ces enfants-là améliorent aussi leurs conditions de vie. Quand on sait que beaucoup de familles vivent dans des appartements, 5,5, 4,5, deuxième étage, troisième étage, c'est pas toujours facile là, de...
Puis j'ai comme l'impression, on parlait tout à l'heure de contact, de briser l'isolement, veut pas un parc pour les petites familles, pour les jeunes, les nouveaux-nés, etc., c'est aussi un lieu de rencontre, à mon sens.
C'est manifestement un lieu de rencontre. Ça permet à des familles de se rencontrer, de se voir, de de se revoir par la suite en circulant sur la rue, de dire « Ah, je t'ai vu à tel endroit. Ah oui, comment ça va avec ton bébé? Ah, moi, je l'ai eu. » Vous savez, des parents, spontanément, de jeunes parents avec de jeunes enfants, ça a une plus grande facilité à rentrer en contact avec les autres. Hein. Un enfant, ça crée la relation. Hein. C'est-à-dire, on est porté à regarder dans la poussette, à regarder le bébé, à regarder le plus vieux, ah, il est donc bien beau, etc. Donc, ça génère ça, mais encore faut-il que tu puisses être sur la rue, dans les parcs, dans des endroits publics pour pouvoir profiter de ça et briser, en quelque sorte, un petit peu l'isolement de ces familles-là.
Et ben en fait, quand on parle d'élections municipales, justement, que ce soit pour Limoilou, j'ai l'impression que ça pourrait s'étendre aussi à l'ensemble de la grande ville de Québec. Je pense pas que c'est des investissements qui pourraient être demandés, qui sont des grands investissements non plus. Là, c'est quelque chose qui est à hauteur humaine côté projet aussi.
Oui, ben en fait, ce qui est intéressant dans notre démarche, là, l'initiative de Trois-Gaux, c'est une table de mobilisation. Hein. C'est pas un individu, ce n'est pas moi. C'est un groupe d'individus. Il y a 25 partenaires autour de notre groupe de travail. Dans ces partenaires-là, il y a évidemment des parents, comme je le disais un peu plus tôt, qui sont impliqués. Et ces partenaires-là s'engagent collectivement à améliorer un petit quelque chose dans leur environnement. Et donc, oui, plusieurs quartiers de la ville de Québec pourraient profiter de l'implantation d'un projet collectif comme celui-là, où ensemble, il est possible de faire davantage que seul ou individuellement. Ça, c'est reconnu, là. Et c'est ça qui est voulu par l'initiative de Trois-Gaux, parce que nous ne sommes pas un organisme qui dispense des services. On est un organisme qui crée la mobilisation, qui crée la concertation et qui, après ça, amène tous ces gens-là à agir sur une priorité ou sur un objet de besoin d'une communauté ou d'un milieu.
Et en dehors des parcs, par exemple, pour les 0-3 ans dont on a parlé, est-ce qu'il y a d'autres approches aussi qui peuvent être préconisées, que vous êtes en train de mettre de l'avant, Limoilou, pour s'attaquer justement à cette situation-là, pour régler cette situation-là?
Oui, ben on a eu d'autres actions dans le passé, là, entre autres particulièrement, là, tout ce qui concerne la mise en place là, d'outils de stimulation pour les jeunes enfants. Donc, les parents avaient exprimé le besoin de mettre en place une trousse de stimulation qui permettrait justement à des familles de profiter de cette trousse de stimulation-là là, pour dans le fond, là, un peu plus se donner de nouvelles idées pour peut-être accompagner leur enfant. Donc, l'initiative avec des parents, avec des partenaires, a conçu une trousse de stimulation 0-6 mois. La trousse de stimulation, elle, par la suite, elle a été distribuée dans les CPE, centres de la petite enfance, dans les organismes communautaires. Et la consigne qui a été donnée à nos partenaires qui étaient autour de notre table, c'était de faire circuler cette trousse de stimulation-là auprès des familles qui, eux, côtoient. Hein. Mm-hmm. Donc, une famille avec un enfant de 2 ans et demi arrive au CPE, les éducateurs, les éducatrices peuvent dire aux parents, « Hey, on a une belle petite trousse de 0-6 mois, tu viens d'avoir un bébé, il y a de l'équipement éducatif, il y a un petit livret qui donne quelques idées d'activités, c'est quelque chose de très convivial, très simple. » Donc, cette trousse-là, hein, on en a un certain nombre qui circule actuellement dans l'arrondissement, mais par le biais de nos partenaires, et c'est ça la beauté de notre défi, je vous dirais, c'est que nous, là, on met en place, on crée, on trouve l'action, tout le monde ensemble. Et là, les gens disent, ah, ben, écoute, moi, j'en veux une trousse de stimulation, je vais en faire circuler dans mon réseau. Et donc, la trousse devient comme un outil, une action qui fait en sorte qu'il y a des poupons depuis presque une année, profitent de cette trousse de stimulation-là. Et des parents aussi qui en profitent, dans le sens que quand tu reviens du boulot ou quand tu reviens après une journée de travail, ben tu sais pas trop, tu vas chercher ton petit à garderie, tu fais offrir une trousse de stimulation, ben là, tu mets ça dans ta cuisine, puis tu commences à préparer le souper, et donc tu t'aperçois que ton petit profite de cette trousse-là, c'est un petit tapis d'éveil qui peut être grandement profitable pour les parents, qui les dégage aussi quelquefois pour pouvoir plus facilement préparer le souper pour les autres enfants. Non?
Donc l'idée, globalement, c'est d'essayer justement de regrouper des intervenants, de cibler les besoins dans un quartier, et après ça, de mettre en place des initiatives, soit des outils pour les parents ou soit des outils de réseautage pour les parents.
Oui, bien tout à fait. Dans le fond, nous, là, la table de mobilisation, c'est notre moteur. C'est ça l'initiative. C'est la table de mobilisation qui, eux, définissent pour les prochaines années ce qu'ils veulent mettre en place. Je vais vous donner un exemple. Là, actuellement, on a commencé à travailler depuis l'année passée sur ce qu'on appelle notre camionnette d'animation 1, 2, 3, go. Donc, on a un petit camion qu'on utilise là, depuis un an, là, qu'on amène dans les parcs public qu'on amène lors des festivités de quartier. Ce petit camion-là permet d'apporter du matériel éducatif. On installe un espace pour tout petit. Et donc, là, les parents circulent, viennent voir, bon, profitent un peu de l'aménagement moteur. Et donc, et c'est grâce aux partenaires. Parce que, je vais vous donner des exemples, il y a des partenaires qui ont dit, ah, ben, écoute, moi, t'as envoyé un animateur, moi, pour animer durant les fêtes que vous organisez. Ben, nous, on va fournir un petit peu de matériel éducatif. Donc, l'initiative crée ce modèle-là de concertation.
Et Marc Bergeron, en terminant, en fait, je pense quand on parle aussi de mettre en place une initiative-là, et s'il y a des élus qui nous écoutent, qui ont envie de se dire, bon, OK, on va être leader dans notre milieu, on va monter aussi des tables similaires de concertation à Saint-Sauveur, etc. Mais ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que l'idée n'est pas d'aller rejoindre uniquement les familles défavorisées, mais plutôt de favoriser une mixité sociale à travers ça.
C'est clair. Ça, c'était au point de départ notre première démarche. Et ce qui a permis ça, c'était de recruter d'abord et avant tout des parents qui ont été le moteur de cette démarche-là. C'est pas venu des partenaires. C'est des parents qui ont commencé à solliciter la contribution des partenaires pour justement travailler. Et ces parents-là, eux autres, ont la capacité de préciser vraiment leurs besoins.
En terminant aussi, si les gens veulent vous rejoindre, si les gens de Limoilou qui nous écoutent disent, ben, je pense que c'est une initiative dans laquelle je veux m'engager, ou si les gens qui veulent s'inspirer de cette initiative-là, à quelle adresse on peut vous rejoindre, à quel numéro de téléphone?
Vous pouvez rejoindre l'initiative de Togo au 353-7479.
Marc Bergeron, coordonnateur donc de l'initiative 1-2-3 Go Limoilou. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
On va maintenant jeter un coup d'œil aux questions liées à l'itinérance dans la ville de Québec pour démarrer ce troisième bloc, en fait, pourrait-on dire. Joël Castonguay, qui est coordonnateur du réseau d'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, RAIC, est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour, Raymond.
Alors, comme à l'habitude, en fait, j'aime ça commencer par un état des lieux pour cibler un peu quelle est la nature de la situation. Et quand on parle d'itinérance à Québec, justement, à quoi ça ressemble? Donc, survole la problématique, si on peut dire, ici dans la capitale.
Mm-hmm. Selon une étude qu'on avait faite en 2003 au regroupement, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 16 000 personnes qui utilisaient les services des différents organismes membres du RAIC. Donc, 16 000 personnes, c'est beaucoup. C'est sûr que les organismes travaillent à la fois en prévention à combler les manques qui sont pour les personnes qui vivent l'itinérance au quotidien. Donc, on pense à soupe populaire, on pense vraiment à lits d'hébergement temporaire. On pense également à des organismes qui sont des centres de jour, qui accueillent les gens dans la journée, dans la soirée, même dans la nuit, pour permettre à ces gens-là d'avoir un espace où être. Alors, le RAIC, c'est vraiment une foule d'organismes comme ceux-là. Et puis, pour nous, l'itinérance, peut-être d'abord le préciser, c'est vraiment une personne qui se retrouve en instabilité résidentielle pour un temps qui est déterminé, donc pour plus de 60 jours, souvent ce qu'on dit, et qui se retrouve à avoir des difficultés souvent de santé mentale, de toxicomanie, des problèmes de désorganisation sociale ou de violence familiale. Alors, ces gens-là qui se retrouvent en situation d'itinérance, ben ça peut être un peu n'importe qui. Ça peut être à la fois des femmes, des jeunes, ça peut être des hommes, mais ça peut être vraiment aussi des familles. Donc, ça touche pas nécessairement l'espèce de stéréotype qu'on peut avoir en tête du clochard un peu alcoolique, tout ça, qui traîne ses sacs avec lui. Alors, c'est plusieurs images.
Et dans tout ça, j'imagine que dans un temps, il y a des mesures ciblées, des mesures qu'on connaît, en fait, justement, tu les as mentionnées, soupe populaire, hébergement et autres. Mais j'imagine que quand on parle de régler, d'aborder la question d'itinérance, faut penser à la limite dans un plan de développement social, donc dépasser un peu les mesures de première instance.
Tout à fait, oui, parce que régler le problème de l'itinérance, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Quand on parle d'itinérance, on se rend compte que c'est des personnes qui sont, comment je dirais, aspirées dans une espèce de spirale, donc qui ont accumulé plusieurs facteurs d'exclusion. Donc, pour renverser la spirale, ça prend énormément de temps et de soutien apporté à ces personnes-là et apporté aussi au groupe de personnes, pas seulement à des personnes individuelles, mais vraiment au groupe. Puis c'est sûr que quand on regarde différentes villes au Québec, on se rend compte que Sherbrooke, Montréal ont des plans de développement social qui incluent de plus en plus des stratégies qui visent à diminuer continuer à réduire le phénomène de l'itinérance. Par contre, à Québec, on s'est pas encore doté de cet outil-là.
Et si on regarde justement comparativement peut-être à Montréal, à Sherbrooke, qu'est-ce que devrait contenir un plan de développement social efficace pour Québec?
Ben, c'est sûr que moi, je vais parler au nom de l'itinérance plus particulièrement, mais en même temps, un petit peu de lutte à la pauvreté. Alors, une responsabilité des municipalités, c'est vraiment de faire de la place à tous les citoyens et citoyennes dans l'espace public. Donc, un plan de développement social pour la ville de Québec, tout d'abord, devrait tenir compte de ce qu'on appelle, nous, le droit de cité. Donc, droit de tous les citoyens d'avoir accès, c'est ça, aux espaces publics, puis d'être traité de façon égale, qu'il n'y ait pas de pression envers des groupes ciblés, par exemple, et que il n'y ait pas de mesures discriminatoires et que si moi je traverse la rue à un endroit qui est pas une intersection, ben j'ai pas l'air d'un itinérant, donc je me retrouverai pas avec une contravention versus quelqu'un qui a une apparence plus marginale qui pourrait elle se retrouver. Donc on parle vraiment de mesures un peu plus discriminatoires. Donc un plan de développement social devrait contenir un volet droit de cité pour nous, un volet aussi logement social, parce qu'une des façons de réduire l'itinérance, c'est vraiment de faire en sorte que il y ait plus d'accessibilité au logement. Alors, c'est sûr que quand on a moins de logements sociaux, ben c'est beaucoup plus difficile pour des personnes à faible revenu d'aller se trouver un toit sur la tête et un toit qui leur permet aussi de se reprendre en main. Donc, ils n'auront pas à courir les banques alimentaires pendant toute la semaine pour réussir à survivre, qu'ils n'auront pas à faire le tour des différents organismes, donc à passer des heures et des heures et des heures à pouvoir survivre parce qu'ils paient trop cher leur loyer. Donc, vraiment, un toit qui leur permet de pouvoir se reprendre en main. Mais souvent, on parlait tout à l'heure qu'on a besoin de temps à investir auprès des personnes itinérantes, puis parce que justement, ils sont dans un phénomène d'exclusion depuis longtemps, souvent. Alors, c'est sûr que juste du logement social, c'est pas assez. Ça prend aussi du soutien communautaire. Et ça, les villes, à travers des programmes qui touchent différents paliers de gouvernement, à travers Accès Logis, peuvent investir un peu plus en soutien communautaire et puis aussi en logement social. Alors, cet aspect-là doit être inclus dans un plan de développement social. Et aussi, dans ce plan-là, c'est sûr que, comme la ville de Montréal le fait depuis quelques années, et puis le fait de plus en plus, on l'a vu récemment, ben ce serait important qu'il y ait un soutien encore plus grand qui soit apporté aux différents organismes qui ont développé toutes sortes de pratiques pour justement faire en sorte de diminuer les phénomènes d'exclusion et d'offrir des services, des activités pour aider les personnes en situation d'itinérance.
Et de ce que j'en comprends, en fait, s'il y a déjà des initiatives comme ça à Montréal, à Sherbrooke, est-ce qu'on dirait à la limite que Québec est peut-être un peu en retard en ce qui a trait à ce soutien-là qui est nécessaire?
Ben, Québec, en fait, a pris un virage culturel important dans les dernières années, surtout avec l'avènement du 400e, ce qui est vraiment intéressant parce que ça met Québec sur la map, comme on dit. Mais malheureusement, quand on regarde, je pense entre autres au Cirque du Soleil qui est offert gratuitement, il y a quelqu'un dans mon entourage qui calculait, qui a eu les chiffres de la ville et qui disait chaque soir, chaque représentation du Cirque du Soleil coûte 300 000 $ à la ville. Alors, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, mais si ce 300 000 $-là était donné à différents organismes communautaires, on en résolurait beaucoup, beaucoup de difficultés, puis on pourrait, au lieu d'investir énormément de temps dans la recherche de financement constamment, ben on pourrait investir davantage ce temps-là auprès des personnes.
Parce qu'inversement aussi, on a vu notamment avec une petite tempête autour de certaines déclarations de promoteurs immobiliers dans le quartier Saint-Roch, justement, on subissait un peu aussi les contre-coups du développement touristique dans la mesure où on dit, ben l'itinérance, c'est pas quelque chose qu'on veut mettre de l'avant, mais plutôt que de la régler, on va la cacher, on va demander à des organismes en toxicomanie, en prostitution aussi, d'essayer de se tasser de ces quartiers-là pour changer les axes d'aide, les axes d'accueil, etc. Quel regard on peut en porter sur des stratégies comme celle-là?
Mais en fait, quand il y avait eu une citation qui disait qu'il y avait trop d'organismes communautaires dans le quartier Saint-Roch, qu'on devait mieux les répartir sur l'ensemble du territoire de la ville, sauf que si on se rappelle bien notre histoire dans le développement des quartiers centraux, ben c'est sûr qu'il y a des organismes qui apparaissent parce qu'il y a des besoins dans certains secteurs. Alors, c'est pas... c'est pas les organismes qui décident d'investir plus sur un territoire qu'un autre, c'est vraiment les besoins de la population qui sont là. Quand on pense à un organisme comme Point de repère qui vient en aide à des gens qui ont des problèmes de dépendance en toxicomanie puis qui utilisent des drogues par injection, ben Point de repère est né de la volonté d'un besoin de santé publique. Donc c'est pour aider la santé de vraiment tous les concitoyens et concitoyennes. Donc ce que les groupes communautaires se sont fait dire, c'est qu'ils pouvaient être dans le quartier Saint-Roch, mais faut pas qu'il soit trop visible, puis faut pas, surtout pas qu'il soit sur la rue Saint-Joseph. Alors que quand on déplace un organisme communautaire, ce que ça fait, c'est que les gens qui sont habitués d'aller là, qui avaient des liens de créer à ces endroits-là, ben le réflexe se fait pas automatiquement de déménager non plus ses habitudes, parce qu'on se rappelle que quand on parle d'itinérance, on parle souvent de personnes qui sont en désorganisation sociale. Donc juste de leur demander d'aller 2-3 rues plus loin, c'est déjà beaucoup à ce moment-là, puis ils perdent le lien qu'ils ont avec les différents intervenants, leur réseau d'entraide aussi, parce que quand on revitalise un quartier, puis quand on le fait de manière, je dirais, à moins favoriser la mixité sociale, à ce moment-là, le coût des loyers augmente et les personnes doivent aussi déménager. Ceux qui avaient un toit sur leur tête, mais qui étaient à faible revenu, donc à risque d'itinérance, doivent s'en aller. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est que ces phénomènes-là de revitalisation s'accompagnent aussi de beaucoup, beaucoup de répression policière, puis d'intimidation. Des fois, c'est pas nécessairement de la répression en tant que telle, mais c'est constamment se faire demander ses cartes, alors qu'un citoyen comme vous et moi se fera pratiquement jamais demander ses cartes par les policiers. Donc ça fait en sorte que les personnes qui ont pas de toit sur la tête aussi s'en vont, s'éloignent, donc ont moins accès aux organismes qui étaient là d'abord pour eux. Alors, c'est pas comme si on met une soupe populaire à Beauport, je pense pas que les gens vont se déplacer pour aller jusque là-bas. Puis de toute façon, ils n'ont pas d'argent pour prendre le transport en commun.
Et j'imagine aussi qu'il y a un non-sens à dire, il faut que vous soyez accessible, il faut que vous rejoigniez des gens et dire, soyez moins visible. Si les gens ne vous voient pas, ils ne savent pas que vous êtes là pour les aider non plus. Il y a une question d'accès aussi.
Tout à fait. C'est toute l'accessibilité qui est remise en question. Puis, quand on regarde Québec, on voit aussi que avec les grands phénomènes, le 400e, tout ça, il y a une espèce de ménage social qui s'est créé. Et ce ménage-là provient souvent du préjugé que les personnes qui sont dans l'itinérance sont des personnes dangereuses, alors que quand on regarde les méfaits qui sont commis, souvent c'est plus des méfaits de survie de petits vols, mais il n'y a jamais de violence, il n'y a jamais, c'est très plus rare que la violence qui est commise envers d'autres concitoyens, d'autres concitoyennes, mais il y a un phénomène de peur qui est là. Donc ce que ça fait, c'est que souvent ce ménage-là se fait de différentes façons. Ça peut être en donnant des constats d'infraction pour avoir occupé plus de 5 minutes un banc de parc. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir traversé la rue à un endroit qui n'était pas une intersection, pour avoir fait du squeegee, fait de la quête, tout ça. Et alors, les personnes en situation d'itinérance se retrouvent à accumuler des constats d'infraction, souvent. Et là, se retrouvent par la suite, soit qu'ils se reprennent en main, qu'ils retrouvent un toit sur la tête, un petit emploi, tout ça. Et là, on les retrace et on voit qu'ils ont jusqu'à parfois 10 000, 15 000 $ de constats d'infraction. Alors, se retrouvent en prison et là, le cycle de l'itinérance recommence à la suite de la sortie de prison. Alors, il y a vraiment un problème quand on parle de revitalisation et la ville doit jouer un rôle de médiation, doit être là pour faire en sorte de faire valoir les intérêts de tous les concitoyens et les concitoyennes, à la fois ceux qui sont plus démunis, à la fois ceux qui ont besoin d'un quartier plus revitalisé aussi.
Et d'ailleurs, en terminant, Joël Castonguay, là-dessus, qu'est-ce qu'on demanderait, quel engagement on aimerait entendre, justement, de la part des élus, et autant, dans le fond, des élus potentiels à la mairie que de ceux qui vont se présenter aussi à titre de conseiller?
Ce qu'on aimerait entendre de leur part, c'est d'abord, comme on le disait tout à l'heure, peut-être une volonté de faire un plan de développement social qui tient compte des réalités de l'itinérance. Alors, juste d'entendre ce message-là, c'est déjà beaucoup. Et peut-être aussi se doter de moyens nécessaires pour aménager l'espace public, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une mixité citoyenne, pas seulement de l'espace public pour les gens qui ont les moyens de s'offrir certains services.
Alors, on garde ces éléments-là en tête, en route justement vers les élections municipales. Joël Castonguay, donc coordonnateur du Réseau d'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, merci.
Bienvenue.
Et on poursuit donc ce parcours électoral. On reste dans la question de la pauvreté. On a parlé donc de la lutte à l'itinérance, notamment il y a quelques instants. Maintenant, on va développer de manière plus générale, plus globalisée, en compagnie de Robin Couture, qui est porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Bonjour.
Bonjour Raymond.
Alors, mais peut-être d'abord pour préciser, quand on parle de lutte à la pauvreté, est-ce que c'est un dossier qui est national, est-ce que c'est un dossier provincial ou un dossier local?
Ben, en fait, c'est un dossier qui joue en fait à ces trois paliers-là. Et mon idée ce matin, c'est peut-être de présenter là, qu'est-ce qu'une ville comme Québec peut faire en tenant compte de ses compétences, qu'est-ce qu'elle pourrait faire aussi au niveau, on va dire au niveau provincial, au niveau national, et aussi, ben nous, localement, comme citoyens, citoyennes, dans la lutte à la pauvreté, comment on peut utiliser les instruments que sont les villes, justement, pour pousser cette lutte?
Oui, parce que dans le fond, tout d'abord, on peut dire que la ville de Québec peut décider de s'impliquer plus avant au niveau national et provincial, en représentation notamment.
Effectivement, déjà, dans les dernières années, on a vu des villes qui se sont justement impliquées dans des campagnes de lutte à la pauvreté. C'est évident que les villes sont limitées là dans leurs compétences puis leurs pouvoirs, les actions qu'elles peuvent faire, ça concerne, on va dire, davantage les conséquences de la pauvreté, puis pas nécessairement les causes. Alors, c'est sûr que lorsqu'on parle de meilleure répartition de la richesse ou de meilleure redistribution de cette richesse-là, on pense davantage là spontanément au gouvernement provincial ou fédéral. Mmh. Donc, quand on parle de meilleurs salaires pour les travailleurs travailleuses, on pense aux normes de travail ou à la réglementation concernant le salaire minimum. On parle des programmes sociaux améliorés, ben on pense tout de suite comme à un outil comme la fiscalité là qui aurait avantage à être peut-être plus progressif. Sinon, ben on a un beau débat présentement aux communes là sur l'assurance emploi, l'argent des travailleurs, des travailleuses, l'argent qui a été détourné dans les années passées. Des caisses, justement, d'assurance-emploi là, pour éponger des déficits. Donc, c'est des choses qui sont plus au niveau national. Ces enjeux-là touchent peut-être plus aux causes de la pauvreté. Ça dépasse largement, finalement, les compétences des municipalités. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que les municipalités, c'est peut-être le niveau de gouvernement, le palier qui est le plus proche du monde, c'est proche et quotidien. Donc, les gens aiment ça être informés de ce qui se passe dans leur quartier, dans leur village, dans leur ville. Puis, la Ville de Québec, il fait clairement pas exception. Donc, on a souvent tendance à oublier le poids politique réel des municipalités. Alors, on pourrait s'imaginer, par exemple, à Québec, un registre Labeaume plus progressif ou une union des municipalités qui ferait justement une véritable union et pression pour améliorer les conditions de vie des citoyens et des citoyennes. Donc, des enjeux qui méritent une attention à ce niveau-là, au niveau de la lutte à la pauvreté. Je viens d'en nommer quelques-uns. Donc, on défend le tourisme et l'innovation à tout vent, mais on a vu le maire Labeaume aller faire des gorges chaudes à Montréal avec le succès du 400e, le festival d'été, le sol du soleil sous les bretelles d'autoroute. Donc, c'est possible pour nous d'imaginer ou d'espérer un peu la même chose au niveau de la lutte à la pauvreté. Pourquoi Québec serait pas un chef de file, finalement, dans cette lutte-là? Pourquoi l'obstination de notre maire, pour l'instant, ne pourrait pas se concentrer sur un projet comme celui de lutte à la pauvreté plutôt que sur l'achat massif de Red Bull, si tu veux.
À la limite, en fait, on pourrait presque dire que c'est un choix social, une question de volonté politique, beaucoup, de dire, bon, OK, on s'engage réellement. Et en même temps, si on reste dans la question, justement, d'un engagement éventuel de Québec au palier supérieur de gouvernement, j'imagine que d'obtenir des choses en lien avec la lutte à la pauvreté, ça pourrait bénéficier aussi la Ville de Québec, ça aurait des conséquences positives.
Effectivement, et ça c'est un travail que... On peut penser que ce travail-là est important aussi au niveau des conseils. Là, on parlait du très, très local, donc des conseils de quartier ou des conseils d'arrondissement. Il y a des espaces, là, qu'on a tendance à négliger dans le sens où on pense que ça peut, seulement être des espaces, des lieux politiques qui concernent des territoires très, très restreints. Alors qu'on peut les investir avec des enjeux qui dépassent, justement, les circonscriptions ou les comtés. C'est possible, ça a été fait. Il y a des municipalités, il y a des conseils qui ont appuyé des campagnes politiques de lutte à la pauvreté. Donc, quand on parle, parce qu'on parle encore des élections ce matin, des élections municipales, les prochaines élections, on dit qu'ils sont déjà gagnés pour le maire Labeaume. Bon, cet enjeu-là est réglé. C'est peut-être le temps de se rendre compte que le rôle des villes peut être, si on veut, élargi à des enjeux aussi majeurs que la lutte à la pauvreté. Donc, on n'aura peut-être pas un nouveau maire ou une nouvelle mairesse, mais ces élections-là sont peut-être le temps de développer une nouvelle vision politique pour Québec et les autres villes. Donc, une vision qui ferait qu'on utiliserait justement ces espaces-là, ces espaces que sont le conseil de quartier, les conseils d'arrondissement, les conseils municipaux comme levier pour pousser justement des enjeux qui dépassent les villes, qui dépassent les municipalités. Et ça, ça fait partie un peu du travail qu'on a à faire dans les espaces démocratiques. Mais je sais que tu vas en parler ou tu en as parlé cette semaine, donc je veux pas trop rentrer là-dedans.
Et peut-être, avant de passer à la pause publicitaire, Robin Couture, si on reste dans le général avant de tomber dans le local au retour de la pause, il y en a peut-être qui vont se dire, on demande aux gens de lutter contre la pauvreté, on demande aux politiciens de développer un peu leur engagement face à ça, mais est-ce qu'on leur demande de s'engager dans une lutte qui est pas gagnable? C'est un discours qu'on entend à l'occasion, c'est de se faire dire, ben, il y aura toujours des pauvres, quoi qu'il arrive.
Oui, oui, on se fait souvent dire également qu'on ne sera jamais capable de stopper l'appui ou souvent, je fais le parallèle, l'esclavage aux États-Unis, plusieurs n'y croyaient pas, la fin de cet esclavage-là, et ça a été réalisé. Donc, il y a des moyens de le faire. Il y a des progrès qui ont été faits dans les dernières années. Je pense aux familles monoparentales, entre autres. Les personnes seules ont été beaucoup oubliées, sauf que il y a quand même des progrès notables, et le Québec se distingue quand même par rapport aux autres provinces, par rapport à l'Amérique du Nord au niveau justement de cette lutte-là à la pauvreté qui reste encore beaucoup de chemin à faire. Sauf que même on peut se rappeler au niveau local qu'en janvier dernier, le maire Labeaume annonçait son intention justement d'élaborer une politique sociale pour la ville de Québec. Donc c'est la conseillère Louise Lapointe là, qui était tout juste expulsée du RMQ, qui était devenue indépendante, celle du quartier Saint-Sauveur, qui a hérité du mandat de proposer 5 projets vraiment très, très précis d'intervention pour la ville. Donc, Louise Lapointe a travaillé sur une politique de développement social un peu plus large. Alors là, elle a annoncé qu'elle ne se représentait pas. C'est un peu au point mort pour l'instant. Donc, on pourrait peut-être regarder, là, dans quelques minutes, qu'est-ce qui pourrait faire partie, qu'est-ce qu'une ville comme Québec pourrait faire au niveau d'une telle politique.
Qu'est-ce que la ville de Québec pourrait faire localement dans un éventuel plan de lutte à la pauvreté? Alors justement, est-ce qu'on a des exemples là, et quel impact nos élus municipaux pourraient avoir sur ce dossier-là?
Bon, c'est certain que en tenant compte des compétences des municipalités, là, il est possible de cibler des actions prioritaires pour contrecarrer certains mécanismes qui soit précipitent ou maintiennent des citoyens et citoyennes en situation de pauvreté. Tantôt, on parlait plus disons des causes qui sont réglées souvent par l'effet de législation, de lois ou de mécanismes qui sont plus nationaux, mais il y a des actions qui pourraient être faites qui auraient un impact direct sur la qualité de vie des personnes en situation de pauvreté, mais aussi de l'ensemble de la population. Alors, on a à penser qu'au logement, bien entendu, au transport en commun, à des emplois plus accessibles ou aux loisirs et à la culture. Par exemple, si on prend la question du logement, bon, on sait que le logement, c'est toujours la principale dépense des personnes à faible revenu. Donc, je pense qu'une ville comme Québec doit appuyer des revendications pour l'augmentation du nombre de logements sociaux. C'est très difficile à Québec présentement. La construction, par exemple, de coopératives d'habitation, c'est très long. C'est des projets qui s'échelonnent. On a qu'à penser, par exemple, à l'escalier dans Saint-Jean-Baptiste ou à la baraque là, dans Saint-Sauveur. Donc, sur 4 ou 5 ans, alors, c'est très, très difficile de laisser les gens en attente dans un si long laps de temps. Donc, ce serait très important. Il y a aussi des mesures qui peuvent être prises au niveau du logement pour mieux contrôler le marché locatif. Là, la ville peut exercer vraiment une grande influence. Là. On parle, par exemple, d'une revendication qui est nationale, mais qui pourrait très bien être appliquée au niveau local. C'est le dépôt des baux à la régie du logement. Pour être certain que les propriétaires, d'une année à l'autre, ne vont pas avec des augmentations là, qui sont, ma foi, faramineuses. Il pourrait avoir aussi l'allocation du supplément au loyer directement aux locataires plutôt qu'aux propriétaires. Et bien sûr, la ville pourrait exercer une plus grande vigilance là, sur la qualité des logements pris.
Et en parallèle, si on regarde, par exemple, on mentionnait loisirs et culture, qu'est-ce qui pourrait être fait à ce niveau-là?
Oui, mais c'est sûr qu'il y a déjà à Québec des initiatives comme Accès loisirs et Guichet ouvert qui sont assez intéressantes. Donc, ça donne la possibilité à des personnes en situation de pauvreté justement de participer à des activités qu'elles ne pourraient pas s'offrir, là, faute des moyens nécessaires. Malheureusement, ce qu'on a remarqué, c'est que la manière puis le nombre de places octroyées pour ces programmes varie beaucoup selon les arrondissements. Donc, pour une ville, il serait possible de réserver là, pour la ville de Québec un nombre donc prédéterminé de places pour les personnes et les familles en situation de pauvreté afin que celles-ci puissent justement là, s'épanouir puis jouir d'une qualité de vie là, qui soit satisfaisante, et ça, peu importe là où elles habitent sur le territoire de la ville. Ça me fait penser justement, je nommais le transport en commun. Bien, c'est sûr qu'un réseau de transport en commun accessible et de qualité, c'est essentiel pour toutes les personnes là, d'une ville. Donc, ça permet d'aller travailler, de se former, de se rendre à des services, justement, comme les hôpitaux, les organismes d'aide, les bibliothèques, l'épicerie. Donc, ça permet de rester en contact, là, d'où le lien avec la vie culturelle et sociale de la ville. Donc, mais ce qu'on a tendance à oublier, justement, c'est souvent le prix d'utilisation du transport. Ça peut paraître peu cher pour des personnes, mais pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est une dépense qui est quand même qui est notoire. Donc, c'est souvent un obstacle, justement, à ces déplacements-là. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait? Bon, ça pourrait être, entre autres, un prix qui soit relié au transport, là, qui pourrait être modulé selon les revenus ou une tarification sociale. Ce sont des initiatives qui pourraient être facilement instaurées par une ville comme Québec.
Donc, c'est toujours, en fait, des questions d'accès, d'essayer de trouver des moyens pour diminuer les iniquités dans l'accès à certaines mesures, à certains moyens. Donc, on parle de transport, on parle de loisirs, on parle de logement également. Donc, c'est dans le fond, des éléments, à la limite, un peu plus financiers qu'autre chose aussi.
Oui, effectivement. Puis, par exemple, la question de l'emploi, bon, on sait que souvent, la ville va par des subventions ou par des crédits appuyer justement la création d'emplois qui sont hautement spécialisés. Sauf que ces emplois-là laissent beaucoup de gens de côté, des gens justement qui pourraient se réinsérer. Et c'est une bonne façon également de lutter contre la pauvreté, là, de la création d'emplois. Donc, on pourrait penser que la ville puisse soutenir des projets et des entrepreneurs qui développent des emplois de qualité, mais surtout des emplois qui sont accessibles aux personnes en situation de pauvreté, donc des emplois qui permettent justement de sortir de la pauvreté pour une personne qui travaille. Et peut-être finalement, une proposition qu'on entend rarement parler, mais qui pourrait être intéressante. On parle beaucoup là, de changer de cap, de changer de regard, donc présentement sur la pauvreté. Souvent, les élus municipaux, et ça fait pas exception à Québec, s'entourent de comités de sages là pour gérer la ville. On sait que le maire Labrosse l'a fait beaucoup avec des gens de son réseau, en fait, du milieu plus financier et de l'entrepreneurship. Donc, on pourrait penser de même que ça pourrait être incontournable d'impliquer des personnes en situation de pauvreté dans un processus comme une politique de développement social, une politique de lutte à la pauvreté là à la ville de Québec. Donc, les personnes en situation de pauvreté, ben c'est elles qui sont les expertes de lutte à la pauvreté, c'est elles qui vivent cette pauvreté-là. Et ils voient souvent des choses que dont les personnes qui sont pas en contact avec cette réalité-là ne voient pas. Le gouvernement provincial l'a fait depuis l'adoption de la loi là, visant à lutter contre la pauvreté en 2002. Donc, les gens sont justement des personnes en situation de pauvreté sont impliqués dans les processus qui les concernent. C'est un super bon exemple. Donc, on pourrait penser à la création d'un tel comité, un genre de comité de suivi qui impliquerait des personnes en situation de pauvreté. Et ce comité-là pourrait avoir justement comme pouvoir de mesurer les impacts réels d'une future politique de développement social à Québec. Et moi, je suis convaincu pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau provincial, que ça amènerait des propositions et des initiatives très, très nouvelles. Donc, j'en parlais tout à l'heure d'une nouvelle vision pour la Ville de Québec, du rôle de la Ville, mais on pourrait aussi parler d'une nouvelle vision de la lutte à la pauvreté et surtout des moyens pour y parvenir.
Et autour de ça, il y a la question justement du plan de lutte à la pauvreté. Il n'y en a pas présentement à la Ville de Québec. Le maire Labeaume, on l'a mentionné tout à l'heure, voulait lancer l'idée de se doter d'un plan. Ça avait été repris par la conseillère Lapointe, qui, elle, avait rejeté un peu l'idée qui avait été amenée par certains organismes de consultation sur le dossier en vue d'élaborer ce plan-là. Elle avait dit, regardez, moi, ça fait des années que je travaille ici, je connais le dossier. Est-ce que on trouve, au contraire, que l'idée de consultation pourrait aussi être intéressante dans la mise en place d'un éventuel plan de lutte?
Ben, je pense que c'est un incontournable. La conseillère Lapointe a décidé, on verra qu'est-ce qui arrivera de ce projet-là de politique sociale, si ça sera repris là, après les élections ou si ça continuera. On peut pas faire ça en vase clos, même si on prétend avoir la meilleure connaissance des organismes ou des personnes. C'est quelque chose... En fait, pour moi, c'est vraiment un incontournable d'impliquer des personnes en situation de pauvreté. Pas seulement là, des organismes qui les représentent ou des organismes où ces personnes-là vont chercher de l'aide ou des ressources. C'est vraiment d'impliquer les personnes et ça fait une très, très grande différence. On l'a vu, là, entre autres, au niveau provincial, encore une fois, le comité consultatif de lutte à la pauvreté qui implique des personnes en situation de pauvreté. Ça amène une toute nouvelle dynamique et je pense vraiment que c'est un changement qui est nécessaire à tous les niveaux. Et pour une ville comme Québec, ça pourrait être quelque chose d'assez formidable. Des initiatives nouvelles émergeraient de là, j'en suis convaincu. Donc, pour moi, l'idée de faire ça en vase clos, malgré les meilleures intentions, c'est pas une manière de fonctionner là qui vise là, la réussite à long terme. Pour moi, c'est impliquer des personnes, ça fait une très, 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 très grande différence.
Et en terminant, Robin Couture, si en route vers les élections municipales, on se retrouve dans une situation où l'enjeu de la pauvreté est mis de côté, on se retrouve avec une ville qui décide de pas nécessairement mettre de l'avant des politiques sociales au profit donc d'autres types de politiques, quelles seraient les conséquences à moyen terme d'une attitude comme celle-là, selon vous?
Ben, c'est certain que moi, ce que je vois, c'est au niveau des citoyens, des citoyennes, un réveil qui doit être pratiquement immédiat, parce qu'on l'a vu encore dernièrement au niveau de l'assurance chômage, on l'a vu l'année passée avec des statistiques qui disent que des milliers de personnes, en fait, 40% des Québécois qui vivent avec moins de 20 000 $ par année, des Québécois, des Québécoises. Donc, pour moi, c'est une question à moyen terme. De respect des citoyens et des citoyennes et de pas aller dans ce sens-là, c'est se tirer dans le pied. Je peux pas imaginer que les gens puissent continuer à vivre avec si peu de moyens dans des situations là, de pauvreté qui sont intolérables. Alors, cette écoute-là est nécessaire de la part des élus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que on n'aura pas un nouveau maire après les élections de cette année, mais j'espère ressortir de ces élections-là avec une nouvelle vision sociale pour la ville de Québec, parce qu'on en a grandement besoin.
Robin Couture, porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Merci beaucoup.
Merci à toi, Raymond. Passe une bonne journée.
Et toi aussi.
Au revoir.
Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1. On s'en va dans la dernière ligne droite de cette semaine en route vers les élections municipales ici à l'antenne de CKRL et dans la grande région de Québec. Et pour terminer, toujours sous le thème société, on va s'intéresser aux questions de démocratie, de participation citoyenne et de place des citoyens, justement, dans la gestion qui est faite de la ville de Québec. Alors, pour en discuter avec nous, je suis en compagnie de Renaud Blais, qui est représentant du syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université Laval, qui est également porte-parole d'un collectif citoyen qui s'appelle La Ville de Québec que nous voulons. Alors, M. Blais, bonjour.
Bonjour, M. Poirier.
Alors, de manière générale, si on regarde la démocratie, la participation citoyenne à Québec, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un problème ou est-ce que la situation, la place qu'on laisse aux citoyens et citoyennes est bonne?
Ben, pour nous, on trouve qu'il y a une diminution de la valorisation des institutions en place. Prends l'exemple, notre maire actuel en profite souvent pour dévaloriser les conseils de quartier. Il a même prononcé dans une entrevue écrite dans un média où il disait qu'il faudrait abolir les conseils de quartier parce que pour lui, c'est des empêcheurs de tourner en rond. Mm-hmm. C'est une dévalorisation malheureuse pour nous parce que c'était un moyen, le conseil de quartier, pour, comme on dit, institutionnaliser la participation citoyenne.
Oui, parce que quel est l'impact, justement, peut-être si on revient un peu sur le rôle d'un conseil de quartier, qu'est-ce que ça fait, quel est l'impact que ce conseil-là pourrait avoir sur l'administration municipale?
Ben, dans la charte de la ville, le conseil de quartier a ce qu'on appelle la capacité d'initiative. Autrement dit, à partir des besoins manifestés ou des la vie d'un quartier qui manifeste, par exemple, une demande quelconque, ben, le conseil de quartier peut... Comme à la Pointe-Sainte-Foy, par exemple, il y a un groupe qui travaille à la valorisation ou du moins la préservation d'un boisé, bien, le conseil des quartiers s'investit dans ça. Mais là, souvent, ce qui arrive, c'est que, bon, la ville a aussi la capacité de demander au conseil des quartiers de faire telle chose, élaborer des consultations, par exemple. Mm-hmm. Mais ça, quand ça vient de la ville, ça diminue les capacités en temps et en énergie du conseil des quartiers ou du moins de mettre en valeur les besoins de son quartier. Mm-hmm. Vous voyez un peu comment on peut, de la ville ou du moins à partir de l'administration, mettre en valeur ou dévaloriser ces institutions-là.
Et l'idée étant, j'imagine, de préserver ces institutions-là, justement, dans la mesure où c'est l'occasion pour les citoyens, justement, de s'impliquer dans la politique municipale, dans leur politique de quartier.
Tout à fait, tout à fait. Pour nous, c'est très important de mettre en valeur. Il y a des limites au conseil de quartier, mais comme on les a, comme ils sont là, ben il faut les mettre en valeur et les considérer, tout simplement.
Et en parallèle, on parle également d'une charte de démocratie municipale, par exemple, qui vient, j'imagine, aussi en lien avec les conseils et avec les conseils de quartier.
Tout à fait. Ben, ce serait une façon de poursuivre le développement institutionnel de la participation citoyenne ou favoriser la participation citoyenne. Par exemple, souvent, dans une consultation, on a très souvent vu que oui, on va faire une consultation, mais là, on a à peu près 3 jours, 2 semaines pour se préparer à mémoire, puis se pointer. Puis bon, dans les organismes démocratiques, on ne se revient pas de bord comme un maire sur sa chaise, là. Je veux dire, on a des membres, on a des gens consultés, on a, pour présenter une position commune, il faut sonder les citoyens, il faut aller les voir, il faut les interroger. Ça se fait pas en 3 jours, ça, là, c'est... On n'est pas 3 amis du maire, comme le maire des relations. Ben, je sais qu'à la ville que nous voulons, nous autres, on veut valoriser l'autre point de vue. Là. On a décidé très clairement de ne pas dénigrer l'administration en place, mais de présenter des alternatives. Mais souvent, on se compare à l'administration qui est en place, puis on dit, bon, ben à partir de ça, il faudrait aller plus loin, il faudrait plutôt faire ceci, cela, ça, ben c'est la situation qu'on vit. Là.
Et par exemple, dans le cas, vous l'avez amené d'une consultation publique, comment ça devrait se passer dans un monde idéal?
Ben, il faut qu'il y ait des délais respectables pour nous permettre de bouger, puis il faut que le conseil de quartier ait le temps de travailler là-dessus, parce que encore là, le conseil de quartier, souvent, c'est des bénévoles, là. Puis, bon, on a un permanent, des fois, on en engage un surnuméraire pour une consultation particulière, mais quand on commande plein de choses à un conseil de quartier, ben il n'y a plus de temps d'énergie à consacrer aux besoins de son quartier et à la mise en valeur de ce que les citoyens du quartier souhaitent qu'il soit mis en valeur.
Oui, parce qu'il faut garder en tête que c'est une tâche bénévole aussi. Là.
Ben voilà, c'est ça. Puis, bon, souvent, c'est... Mais, très peu mis en valeur.
Et d'ailleurs, à ce titre-là, pour avoir déjà l'occasion de fréquenter des conseils de quartier, j'ai comme l'impression qu'il y a une difficulté dans le recrutement aussi, et c'est difficile de trouver des citoyens intéressés à s'impliquer à ce niveau-là, pour diverses raisons.
Ben, moins on met en valeur une institution, moins on va avoir de gens qui vont vouloir s'investir dans cette institution-là. Il me semble que ça tombe sous le sens, là. Quand on critique de façon très négative, qu'on les considère comme des empêcheurs de tourner en rond, puis surtout que il faut pas négliger les grands médias qui répercutent ou qui transmettent les points de vue très business là, de actuellement valorisés. Puis encore là, c'est pas juste par la ville, c'est comme on traverse un air business où bon, les grands médias, on le sait, sauf quelques comme Radio-Canada qui est l'exemple, mais qui devrait être nos ou notre média là qui appartient à tout le monde. Ben tous les grands médias sont privés puis appartiennent aux mêmes gens qui veulent que ça soit le point de vue business qui soit mis en valeur. Mm-hmm. Là même on connaît la saga de l'entente particulière qu'il y a eu avec GESCA et ses médias et Radio-Canada. Puis cette entente n'a toujours pas été rendue publique. Pour nous, ça nous interroge. Mm-hmm.
Et si on fait le pont vers d'autres éléments, Renaud Blais, on parle notamment dans la gestion d'événements, il y avait un point qui est amené par le collectif La Ville de Québec que nous voulons, qui parlait notamment d'essayer de mettre de l'avant une gestion communautaire des événements.
Ben, là, encore là, il y a possibilité que des gens qui ont des initiatives, il y a des petits festivals, par exemple, qui sont nés et qui sont toujours gérés par des groupes qui sont pas institutionnalisés à la ville. Il faut les mettre en valeur parce que souvent, bon, l'argument que ces gens-là retiennent, ben, c'est que ces gens-là travaillent très souvent bénévolement, puis contrairement à un plus grand festival comme le Festival d'été où ils ont un nombre considérable de salariés, mais là, ça devient moins valorisant pour les groupes ou du moins la communauté parce que, ben, on prend souvent l'exemple du directeur général là, du Festival d'été qui est devenu directeur général du 400e, ben, c'est pas une façon communautaire de gérer les choses, là, parce que vous vous souvenez comment M. Labeaume était tout fier de dire « Je suis allé chercher telle personne ». C'est pas une valorisation de la communauté, c'est plutôt une mise en valeur de son approche qui correspond pour nous un peu plus à une vision autoritaire. Là. Donc, c'est à l'antithèse de la valorisation de la gestion communautaire.
Donc l'idée, un peu comme avec, par exemple, les conseils de quartier, le reste, ce serait de dire, ben, regardez, c'est pas une décision d'un individu, c'est pas l'agir d'un individu, mais c'est l'agir de la communauté urbaine de Québec, d'un ensemble de citoyens via leurs représentants.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Puis j'en profite pour dire, les conseils de quartier, il y a des limites, là, par exemple. Un groupe, là, comme nous, ne peut pas avoir sa voix dans un conseil de quartier. Comment je dirais ça? L'institution institution conseil de quartier, dans ses chartes, dans sa charte, ne prévoit pas qu'il y ait des groupes qui puissent y être représentés. Mm-hmm. Pour nous, c'est une limite. On peut y aller, mais comme individu. Mm-hmm. Moi, je peux pas aller au conseil de quartier et dire « je parle au nom de groupe qui est la ville que nous voulons, qui représente XXXYZ groupe ». Ben, « Ah non, monsieur, on vous écoute, mais vous êtes un citoyen mm-hmm. ». C'est une limite encore là qu'on voit. On n'est pas certain que dans les prochaines années, ça risque d'être valorisé ou changé.
Et en parallèle, il y a beaucoup aussi été question à Québec, par exemple, la place des élus sur les conseils d'administration. Est-ce qu'il faut y aller plutôt avec des citoyens indépendants, des chefs d'entreprise privés indépendants, plutôt que des élus qui doivent représenter certaines idées s'ils représentent un parti? Il reste, quel regard un peu on porte là-dessus? Est-ce qu'on trouve que c'est une dérive qui risque d'être problématique ou au contraire, on va aller chercher des nouvelles idées et c'est un changement qui est nécessaire?
C'est pour moi une surcharge pour les élus. Ça leur permet moins d'être à l'écoute de leurs citoyens pendant qu'ils sont très occupés à siéger sur XYZ encore conseil d'administration. Ben ils sont pas disponibles pour les citoyens. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'ils ont des secrétaires dans leur bureau, tout ça, qui prennent nos messages, puis qui font en sorte que le conseiller et conseillère nous rappellent. Mais c'est une façon de occuper ces élus-là d'une façon très encadrée et organisée. Pour nous, c'est une dévalorisation de sa disponibilité aux citoyens. Mmh.
Donc, ce serait de mieux définir, dans le fond, à la limite, le rôle de l'élu pour lui permettre de porter une parole, mais de la porter peut-être autrement?
Tout à fait. Puis la mise en valeur de la contribution citoyenne. Il pourrait avoir des élections pour déterminer quel citoyen siégera sur tel conseil. Mmh. Combien il y a de citoyens, par exemple, au conseil d'administration du RTC? J'aimerais bien poser la question.
Moi, je pense qu'il y en a genre un ou deux.
C'est ça. Ouais. C'est ça, mais c'est moins que minoritaire encore. Ouais.
Alors, en fait, dans le fond, l'idée étant de se dire la ville est pour les citoyens, donc il faut que les citoyens puissent être juges de l'administration et de la marge des choses, mais en même temps, pas être juges de ça aux 4 ans lors des élections.
Voilà, puis pas seulement aussi de pouvoir se pointer au conseil municipal, puis de devoir tout simplement réagir à quelque chose qui existe déjà, mais pouvoir contribuer dès le départ à l'orientation de la politique et tout ça. Là, on est souvent en réaction face à quelque chose qui est déjà fait, puis qu'on est limité à critiquer ce qui a été fait, mais on n'était pas partie prenante dès le départ. On est souvent pas informé de ce qui se passe à l'avance pour pouvoir s'investir dans ça, puis insérer notre point de vue.
Et quel impact les élus, quel impact le discours lors de la prochaine élection, justement, pourrait avoir, qu'est-ce qu'on leur demanderait de prendre en considération en lumière de ce qu'on vient de dire ce matin?
Je commencerai par dire le point de vue citoyen, puis qui n'est pas nécessairement, l'administration en place valorise les citoyens, oui, dans la mesure où ils sont d'accord avec lui. Sinon, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au conseil municipal, mais moi, j'en venais pas de voir comment on ridiculise, on dévalorise, puis on discrédite des gens qui n'ont pas le point de vue qu'on partage à l'administration. Là. C'est peu de considération pour des gens qui pensent pas comme nous. Là. C'est loin d'être la considération de la diversité des points de vue. Là. C'est l'antithèse.
Et Renaud Blais, en terminant, en quelques minutes, il faut dire aussi... on vient de faire une semaine en route vers la campagne électorale, mais en même temps, des fois, on se pose un peu la question, qu'est-ce que cette campagne-là va avoir l'air en lumière du fait qu'il n'y a pas de candidat à l'opposition, Renouveau municipal de Québec notamment. Est-ce qu'on a l'impression, quel regard on porte là-dessus au collectif, en conclusion?
On se dit, essayons de faire en sorte que d'autres points de vue soient mis en valeur. Puis, nous, on a des idées à mettre en valeur. Bon, on dit démocratie, plus d'écologie, plus de justice sociale, mais on est ce matin sur la démocratie. On va essayer de faire en sorte que, vous voyez, chers citoyens, il y a d'autres points de vue qui existent que celui qui est relayé par les grands médias. Puis on va essayer, par exemple, il y a différents groupes là, de protection des boisés qui sont très dynamiques dans notre regroupement. Les autres, ils sont les promoteurs déjà des engagements que la Ville a pris formellement dans ses documents d'agrandir les espaces boisés. Mais ils sont en train, l'administration en place, de permettre aux développeurs de s'emparer ou du moins de gruger dans les espaces boisés actuels. Ça, ça va carrément à l'encontre des engagements que la Ville a pris pour, dans les prochaines années, augmenter les espaces boisés sur le territoire de la Ville. Mmh. C'est un des éléments qu'on va mettre en valeur là, avec le respect des diversités, la place des femmes. On parle pas d'agriculture à Québec, mais il y a des espaces sur la Ville de Québec qui servent déjà à l'agriculture, puis il y en a d'autres qui pourraient contribuer à faire en sorte que les gens se nourrissent ou du moins participent
à tout ça.
Que c'est les terrains soient valorisés.
Ben, Renaud Blais, donc porte-parole de ce collectif La Ville de Québec que nous voulons, merci.
Est-ce que j'ai une seconde pour dire qu'on prépare un débat là, pour la mi-septembre où on va présenter d'autres points de vue aussi. Puis il y a une marche cyclotour là, qui va être organisé pour permettre aux gens de fréquenter les boisés qui sont en danger.
On aura sûrement l'occasion.
On aura des annonces à faire dans les prochaines semaines là-dessus.
Et on aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Alors ben, Monsieur Blais, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir, puis félicitations pour votre émission ce matin particulièrement, c'était vraiment charmant.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Alors ben voilà, nous, c'est ainsi qu'on termine cette semaine en route vers les élections municipales.